la petite option en plus qui fait joli, qui décore un peu le chrétien? Ou est-ce que véritablement le fruit de l'Esprit vient de la nature de Christ, vient de la nature de Dieu, et qu'il désire réellement que ce fruit soit véritablement ce qui est la carte de visite du chrétien, soit véritablement son témoignage sur la terre? Amen. Eh bien, pour cela, nous devons être dans l'Esprit, nous devons vivre et marcher dans le Saint-Esprit, être remplis de lui. Plus nous sommes remplis de lui, eh bien, plus ce fruit va, d'une manière ou d'une autre, tranquillement mûrir, grandir et se développer, afin que d'autres puissent cueillir ce fruit à notre contact et qu'ils soient bénis, touchés, et qu'ils puissent dire « Moi aussi, je veux être comme lui. Moi, je veux avoir ce que lui a ou elle a, parce que le fruit est tellement bon. » Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il étend ses racines vers le courant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans crainte. Et il ne cesse de porter du fruit, et son feuillage reste vert. Je prie que nous soyons ces arbres-là, plantés, enracinés, fondés en Christ. Et lorsque nous sommes fondés en Christ, nous avons accès à la source secrète, dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre vie intime avec le Seigneur. Alors nos racines puisent cette sève, cette eau vive qui va se transformer en sève, qui va devenir vie, vitalité, et qui va exploser en fruits de tout genre. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. J'aimerais qu'on regarde ce matin encore un autre fruit, car les fruits, comme je l'ai dit, ce n'est pas une décoration, mais c'est quelque chose qui va passer la barrière de l'éternité. La décoration, l'habit de noces de l'épouse de Christ, comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que vous l'imaginez, cet habit de noces? Tout ce qui passe la rampe de l'éternité, c'est ce que Christ a fait en nous. C'est ce que Christ a, ce que le Saint-Esprit a pu transformer en nous. C'est lorsque l'on passe la rampe de l'éternité, le foin, le chaume, la paille, huit, disparaît. Mais ce qui reste, les pierres précieuses, l'or, l'argent, tout ce qui est durable, tout ce qui passe, tout ce que Dieu a fait en nous, ce fruit de l'Esprit, c'est le revêtement qui sera la beauté de l'éternité, la beauté de l'épouse de Christ dans l'éternité. C'est vrai que je me souviens au moment de ma conversion et surtout au moment du baptême du Saint-Esprit, eh bien, je me souviens que carrément d'un moment à l'autre, les fruits de l'Esprit étaient là. J'aimais tout le monde, j'étais joyeux tout le temps, j'étais patient avec tout le monde. Il y avait toutes sortes de nouvelles choses qui arrivaient, comme ça, parce que la vie de Christ a explosé. C'est comme un robinet qui s'ouvre, comme un relâchement de vie divine qui a fait paraître les fruits de l'Esprit, comme ça, d'une manière surprenante. Et j'étais surpris moi-même. Mais mes amis, le fruit de l'Esprit, c'est ça, mais c'est aussi avoir ce fruit 30 ans plus tard, ou 50 ans plus tard. C'est pas d'avoir des petits fruits tout desséchés qui ne représentent plus grand-chose, mais c'est d'avoir encore accès à la sève et de pouvoir présenter un fruit qui a mûri avec les années, qui s'est embelli avec les années. Et c'est là que nous réalisons que on peut encore aimer, même si on ne reçoit pas en retour. On peut encore manifester de la bonté sans recevoir l'appareil. Et on peut encore rester fidèle à la volonté de Dieu, même tout seul, dans un environnement où la fidélité est devenue un sport. On peut encore être patient et supporter encore, même lorsque, après de longues années, on n'a pas vu ce que l'on aurait souhaité ou ce que d'autres ont revendiqué, on est encore patient. C'est un fruit qui a passé l'épreuve du temps. Frères et sœurs, c'est ce fruit-là que le Seigneur nous propose. C'est ce fruit-là qu'il voudrait voir dans nos vies. Non seulement le premier fruit de l'explosion de la conversion où tout est si facile, si beau, si naturel et si candide, j'allais dire. Mais c'est de voir un fruit qui a mûri. Un fruit qui mûrit. Car je crois fermement que le fruit de l'esprit est véritablement une carte de visite du chrétien. Souvent, on invite des prédicateurs pour leur message, pour leur capacité de prêcher, leur capacité d'enseigner, de communiquer, pour les dons qu'ils ont, le don d'enseignement, de prophétie, de l'onction dans le ministère. Et s'il y a ces dons, l'Église est bénie. Mais j'aimerais qu'on puisse inviter chaque dimanche un autre chrétien, tout simple, ici, pour qu'il puisse nous présenter des fruits. Il y a les dons qui nous impressionnent, qui sont une bénédiction, mais s'il n'y a pas les fruits qui vont avec, c'est catastrophique. Chacun peut avoir des fruits qui sont une bénédiction pour notre prochain. Donc, le fruit de ce matin que j'aimerais voir avec vous, c'est la douceur. J'ai écrit le premier chapitre de cette douceur dans le livre « Réponse à un monde en recherche » que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Vous pouvez également consulter cela. Il y aura quelques éléments de cette étude de l'époque qui était basée sur les béatitudes. Heureux les doux ou les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les doux. La douceur, c'est véritablement une attitude, c'est un comportement, c'est quelque chose d'intérieur qui va se réfléchir, qui va se refléter vers l'extérieur. Et lorsque nous lisons dans Galates, chapitre 6, nous avons donc vu maintenant 5:21 qui est l'énoncé des fruits de l'esprit, 5:22, le fruit de l'esprit. Et nous voyons que, après avoir cité ces 9 fruits ou ces 9 aspects du fruit de l'esprit, eh bien, Paul va dire au chapitre 6, il va parler d'un de ces fruits. Il va dire, frère, si un homme vient à être surpris de quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. La douceur, c'est plus qu'une nature naturelle. C'est plus qu'une caractéristique naturelle. On peut être de nature paisible, de nature patiente, de nature douce. Peut-être que ça concerne plus les femmes que les hommes, je ne sais pas. Mon expérience me dit quand même un peu, oui. Certainement même. Mais la Bible dit dans Philippiens 4:5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça concerne les hommes et les femmes. Que votre douceur, dit l'apôtre Paul, soit connue de tous. Nous rappelons que le fruit de l'esprit, ce n'est pas les œuvres de la chair, ce n'est pas notre nature humaine. Même si nous avons une nature humaine qui est douce, paisible, enclin à la bonté, la générosité, la fidélité, etc., le fruit de l'esprit est de nature surnaturelle. C'est la vie, la puissance de l'esprit qui opère ces choses, comme nous allons le voir. Car nous allons être confrontés à des situations où notre douceur humaine arrivera vite à ses limites. Et il nous faudra quelque chose de Dieu, quelque chose de l'Esprit, quelque chose du ciel, quelque chose de puissant pour dépasser nos limites, pour entrer vraiment dans ce qui caractérise vraiment le fruit de l'Esprit, ce que Dieu a voulu. La première chose que l'on remarque, c'est que le fruit de l'Esprit est directement lié à la personne de Jésus. Nous lisons dans les textes prophétiques et également rapportés dans l'évangile de Matthieu que le Fils de Dieu est arrivé en douceur vers Jérusalem. Il est arrivé monté sur un âne, l'image de l'humilité, l'image de la douceur. Il est venu non pas comme un chef de guerre qui allait imposer sa loi, qui allait simplement dicter sans compromis ce qu'il fallait faire et il fallait se soumettre à ce qu'il a demandé. Non, il est venu, comme dit la Bible, « Voici ton roi vient vers toi avec la douceur. » Ton roi vient avec la douceur. Et la Bible dit même plein de douceur, plein de douceur. Jésus va dire, non seulement je viens vers Jérusalem avec plein de douceur alors que j'ai tellement de reproches à lui faire, mais je viens avec ma douceur pour gagner son cœur. Et Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos car je suis doux et humble de cœur. La douceur caractérisait la personne de Jésus alors qu'il avait un caractère fort, une personnalité équilibrée et belle, magnifique et parfaite. Il était marqué par cette douceur divine nécessaire. Pourquoi ? Pour gagner nos cœurs. C'est la douceur de Jésus qui gagne nos cœurs. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Elle nous convainc de son existence. Mais la douceur de Jésus nous donne l'envie de nous approcher de lui, donne la confiance de venir, que je n'ai rien à craindre auprès de lui, que je ne vais pas d'abord recevoir une leçon de morale ou des coups de bâton, mais que je vais recevoir le réconfort, la compréhension, l'écoute, et que je vais recevoir la restauration. Frères et sœurs, avez-vous été restaurés par la douceur de Jésus ou par sa dureté ? Par sa douceur, n'est-ce pas ? Nous avons été relevés par l'humilité et la douceur de Jésus qui marque, qui est autant un aspect de sa personnalité que l'autre côté, qui est la fermeté, qui est la force, qui est la puissance, qui est son identité claire. Oui, nous pouvons nous approcher en tout temps de lui, car il est doux et humble pour gagner nos cœurs et pour nous encourager. La Bible dit donc que Jésus était de cette nature-là. Ensuite, elle dit qu'il faut nous revêtir de Christ. Il faut nous revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3, 12, vous pouvez regarder ce texte. Quelques textes d'exhortation vont être donnés dans ce message. Colossiens 3, 12. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous. Vous n'allez pas retrouver cet article dans un magasin de confection. Dans une grande surface, non ? Mais Dieu réserve ce vêtement pour vous, et il sera à votre taille, alléluia ! Le revêtement de douceur, de bonté, d'humilité, de patience et d'autres choses. Je dois aller dans son magasin, je dois aller vers lui pour qu'il me donne mon vêtement, ajusté à ma taille, pour moi. Il faut que je m'approche de lui. Il faut pour cela que j'aie soif de sa présence. Il faut que j'aie un grand désir d'avoir cela. Si vous avez l'impression que douceur vous est bien servi, que vous avez assez, eh bien Dieu vous dit, ok, mais si vous dites ce matin, je veux plus de cela, Seigneur, alors vous allez vous approcher avec soif. Vous allez dire, Seigneur, je viens dans ton rayon de confection pour prendre, pour me laisser revêtir, pour prendre ce revêtement de douceur, d'humilité, de patience. La douceur, c'est offrir son caractère, accepter de se laisser entreprendre par le divin potier, afin qu'il traite toutes les rugosités, tous les angles tranchants, les réactions charnelles de mon caractère qui parfois pique, revendique, mord, qui crie, qui riposte, qui se défend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sœur Sophie. Sœur Sophie était ainsi appelée, elle était une petite dame qui, dans les années 20 ou 30, je ne sais pas très bien, je n'ai pas trouvé exactement la date, mais elle travaillait comme blanchisseuse à New York. Et voici comment elle se définit. Elle dit, elle se présente, « J'ai appris à travailler. Je travaille bien et on peut se fier à moi. Aussi beaucoup de gens désirent-ils m'avoir, mais si je vais chez eux, ils doivent aussi recevoir ma prédication. Pas de sermon, pas de travail. » Et Sœur Sophie va écrire sur la douceur. Elle dit, « Certaines personnes sont tellement sanctifiées qu'il est désagréable de vivre avec elles. Elles sont des anges à l'église et des diables à la maison. Des choses très douces à l'église sont tout à fait aigres à la maison. Tous les chrétiens, dit-elle, tous les chrétiens devraient être doux, car ce sont des gens en conserve, conservés en Christ. Mais il y en a qui doivent être tombés dans le bocal des cornichons tant ils sont aigres. Et quelqu'un qui se moquait de sa foi, elle va répondre avec politesse. Et le monsieur qui essaie de la piquer, de la provoquer dans sa foi, il va répondre, « Mais madame, vous êtes bien polie !»« Mais pourquoi ne le serais-je pas » répondit-elle. « Voici 30 ans que le Seigneur me passe au papier de verre, et il est grand temps que mes angles soient effacés. Je suis comme le caillou au fond de l'eau, qui à force de passer et de repasser m'a rendu lisse et polie. » C'est bien dit, hein? Sommes-nous, avec nos caractères, déposés dans le lit où le Saint-Esprit peut passer et repasser, comme l'eau qui passe dessus et nous lisser, nous polir, chaque fois que des angles rugueux sont là pour encore faire du mal, blesser, etc. La douceur. La douceur, c'est être aimable, doux, humble. Le verbe ou le mot débonnaire, traduit dans certaines traductions, heureux les débonnaires, c'est du vieux français qui pourrait signifier quelque chose qui signifie de la faiblesse, c'est de la bonté extrême, c'est de la clémence, c'est presque être tolérant à l'extrême, bonasse. Non, la douceur biblique n'est pas de la faiblesse de caractère. Au contraire, elle demande une force de volonté pour dire oui à la volonté de Dieu dans les situations difficiles. Regardons encore deux textes qui nous montrent que la douceur va de pair avec l'humilité et la patience. Éphésiens 4:2 nous dit « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Et je m'arrête juste là pour ne pas aller trop loin dans le texte. Mais voici ce qu'il est dit donc. « Marchez d'une manière digne de votre vocation. » C'est notre vocation. La vocation céleste, en toute humilité et douceur, avec patience. Humilité, douceur, patience. Retenez ces mots. Tournons dans Colossiens 3:12 que nous avons déjà lu. Et je le répète juste, « Ainsi donc, comme des élus bien-aimés, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, les entrailles, l'intérieur, l'entraille de miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. » Humilité, douceur et patience. On dirait un petit trio qui va ensemble. C'est lorsque notre nature, nos entrailles sont changées, que notre vocation paraît vraiment. Nos entrailles transformées à l'image de Christ. C'est là que notre vocation émerge. Donc la douceur, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la capacité de se remettre entièrement entre les mains de Dieu lorsqu'on subit une injustice et non pas se fier à ses propres réactions. Car la douceur se manifeste dans nos actions et dans nos réactions surtout. Et dans l'adversité, elle grandit en maturité. Quelques exemples. Dans Nombre, au chapitre 12, nous lisons que Moïse porte ce label sur sa vie. La parole de Dieu dit que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Waouh, quel compliment, Dieu avait remarqué cet homme par sa douceur, mais d'autres traductions disent par son humilité, d'autres traductions disent encore par sa patience. Donc humilité, douceur, patience sont parfois des synonymes. Moïse est l'homme le plus patient, le plus doux et le plus humble. Et nous constatons cela dans ce texte, car ce que l'on voit avec la douceur spirituelle, qui n'est pas la douceur charnelle et la nature humaine, c'est que Moïse est très tranchant et très vif et très fort quand il s'agit de la gloire de Dieu. Il est intransigeant, il est seul contre tous, il est très fort, très fort. Et on pourrait dire qu'il a un caractère très dur, très tranchant. Mais quand il s'agit de lui, quand on l'attaque lui, il est doux, patient, et ses réactions ne sont pas charnelles, ne sont pas du même ordre. Lorsque l'on touche Dieu, il réagit fort, il remet les pendules à l'heure, il remet l'église au milieu du village, il rappelle la volonté de Dieu, il rappelle les exigences du Seigneur, Mais lorsqu'il s'agit de lui, parce que sa sœur et son frère Aaron et Myriam vont venir et dire, mais écoute, ils discutent, ils chuchotent entre eux, là, tu sais, la femme qu'il a pris, Moïse, là, c'est pas très clair, tout ça. Et puis, de toute manière, nous aussi, on est des prophètes. On a aussi reçu un mandat de Dieu. Ce n'est pas que par Moïse que Dieu parle, c'est aussi par nous. Et qu'est-ce qu'il fait, Moïse? La Bible dit simplement qu'il est l'homme le plus patient, le plus doux. Il ne réagit pas. Mais qui réagit? Lisez la suite du texte. Dieu lui-même intervient. Dieu lui-même va intervenir, va prendre la défense, va remettre lui les pendules à l'heure. Et lorsqu'il y aura une sanction sur Myriam, eh bien, Moïse va encore venir et plaider la cause devant Seigneur. On dit, Seigneur, je t'en supplie, ne la juge pas. Seigneur, je t'en supplie, je prie pour elle. Ça, c'est la douceur. C'est des réactions quand on est soi-même mis en cause, quand on est soi-même attaqué. Et on voit ça chez quelqu'un d'autre, dans le Nouveau Testament, chez Étienne, acte 7. Le diacre Étienne est un homme doux et humble. Et patient. Il va raconter toute l'histoire d'Israël, il est intransigeant. Il remet à la lumière la merveilleuse volonté de Dieu. Et il confronte les sacrificateurs dans leur esprit de contestation, dans leur esprit charnel, dans leur esprit qui à chaque fois s'oppose à l'Esprit de Dieu. Et il dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit, il est fort, dur même. Sans compromis. Mais lorsqu'on va l'attaquer, lui, lorsqu'on va lui lancer les pierres, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. La douceur face à une attaque personnelle. Le troisième exemple, c'est celui de Jésus. Dans 1 Pierre 2, 19, on va lire ce texte, car il est très riche en enseignements. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19. Quelle gloire, c'est une grâce que de supporter les peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Car c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui-même a souffert pour vous, et il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça la douceur. C'est s'en remettre à celui qui juge justement en son temps. En son temps. Jésus est très fort, il est sans compromis, il est ferme, inébranlable, quant à la gloire de Dieu, quant à la volonté de son Père, quant à la parole de Dieu, quant à sa mission, il est inébranlable. Mais quand il est lui-même attaqué, il répond par la douceur. Parfois, il ne répond pas. Parfois, il répond, mais il répond avec douceur. Frères et sœurs, c'est là qu'on voit la différence entre une douceur humaine et une douceur spirituelle. C'est que la chair ne peut pas provoquer cela. La chair ne peut pas produire cela. Vous pouvez imiter la douceur, vous pouvez essayer de vous rendre plus doux et vous polir un peu vous-même. Mais ça a ses limites, ça va marcher un temps, mais vous ne pouvez pas, comme Moïse, comme Étienne, comme Jésus, qui sont nos exemples, nous ne pouvons pas être un témoignage lorsque Dieu nous conduit dans des épreuves où il faut des ressources surnaturelles. Paul le rappelle aux Colossiens et aux Éphésiens, « Supportez-vous, faites-vous grâce réciproquement, comme Christ, comme Christ. » Nous l'avons déjà dit, le fruit se développe dans l'adversité. Dans l'adversité. Comment pouvez-vous grandir en amour si vous êtes uniquement environné de gens qui vous aiment pleinement en retour? Vous grandirez en amour et dans l'amour de Christ lorsque vous êtes confronté à des gens qui ne vous rendent rien. Vous grandirez en patience en étant confronté à des situations qui vous énervent. Vous grandirez en douceur en étant confronté à des situations de dureté, d'attaque. Et vous ferez l'expérience, je ferai l'expérience que le Seigneur sait tellement me donner en retour, tellement, lui-même me donner en retour, lorsque le retour ne vient pas des gens. J'aimerais terminer par trois recommandations. trois recommandations sur la douceur. Le premier texte a été lu tout à l'heure dans Galates 6, 1. L'apôtre Paul va redire les choses en disant « Si quelqu'un est tombé, il faut le redresser avec un esprit de douceur, car toi-même tu peux être aussi tenté. Si tu es debout, c'est une grâce. Si l'autre est tombé, peut-être que tu peux expliquer par A plus B plus C pourquoi il est tombé. Tu peux dire « mais il aurait dû faire attention à ci, à ça. Il n'aurait pas dû, il aurait peut-être dû m'écouter aussi. » Donc maintenant, il paye les pots cassés. Non. Redressez-le avec un esprit de douceur. Ne commencez pas à faire la morale ou les explications, mais redressez-le avec le surnaturel. Le naturel, c'est donner mes argumentations, mes explications. Mais le surnaturel, c'est l'esprit de douceur, l'esprit qui vient du Saint-Esprit. Seigneur, je ne sais pas comment faire, comment parler à ce frère, je ne sais plus que lui dire, je ne sais pas comment l'aider. Mais Seigneur, je viens simplement être là. Donne-moi quelque chose au moment pour cette personne. 2 Timothée 2, 25, où l'apôtre Paul s'adresse aux serviteurs de Dieu, il dit qu'il faut redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance. Donc la douceur, nous l'avons dit, Christ est doux pour gagner nos cœurs. De même, nous sommes doux face aux adversaires pour gagner leur cœur. Si vous venez avec vos argumentations, vous aurez raison, mais vous ne gagnez rien. Et je me souviens très bien d'une situation précise où deux personnes qui étaient suivies par les témoins de Jéhovah depuis pas mal de temps s'étaient converties et étaient rattachées à l'église. Et une responsable des témoins de Jéhovah voulait absolument me contacter pour comprendre pourquoi ils avaient, malgré tout leur travail de suivi, perdu ces deux personnes. Et comme j'étais complètement sans expérience à l'époque par rapport à ce genre de sujet, j'ai pris mon Nouveau Testament en grec, j'ai pris ma Bible, j'ai pris une version différente encore, je suis venu avec trois livres. J'ai posé mes livres sur la table, en face j'avais cette personne, j'avais étudié le sujet, je savais où se trouvaient les failles dans la traduction du Monde Nouveau, je savais exactement où il y avait les fautes de traduction et qui étaient intentionnelles, et j'ai commencé à argumenter sur base de cela. Peut-être j'avais raison, mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Le contact n'a pas passé et j'ai compris par cette expérience que ce n'est pas les argumentations forcément qui auront un résultat. Mais l'apôtre Paul dit « redressez-le avec un esprit de douceur ». Ça veut dire, le mot « redresser » dans les deux textes que nous venons de lire veut dire « remettre à sa place ». C'est comme un membre déboîté qui doit être remis à sa place. Remettre à sa place veut dire redonner une chance. Et vous redonnez une chance à quelqu'un qui est tombé, vous l'accueillez. Vous faites comme Jésus a fait avec vous. Vous êtes tombé 20 fois, Jésus vous a relevé 20 fois. Il n'a pas commencé à vous laminer avec plein de choses, avec le marteau de la loi, avec le marteau des versets bibliques. Il est venu simplement avec sa douceur et son amour. Et c'est ça qui a gagné nos cœurs. Et nous gagnons le cœur des gens comme ça, avec la douceur. Redressez, remettez à leur place, donnez-leur une chance par la douceur. Car si toi, tu n'es pas tombé, c'est parce que des gens prient pour toi, parce que c'est une grâce, parce que Dieu te tient. C'est uniquement une grâce. Deuxième recommandation, 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15 nous dit ceci. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez proche de lui, laissez-vous sanctifier par lui. Acceptez le chemin de la sanctification et défendez-vous, mais avec douceur et respect, dans le témoignage, comme pour redresser un frère qui est tombé, pour redresser ou pour confronter un adversaire, eh bien, nous devons, dans notre témoignage, agir avec douceur et respect. Souvent, nous utilisons les méthodes des vendeurs. Nous venons et on y va. On connaît notre matière. On connaît les 4 points du salut. Et on y va, tac, tac. Et puis, on envahit la personne avec notre message comme un vendeur qui veut vendre n'importe quoi. Et les gens sont complètement subjugués par ce qu'on a dit, mais le contact n'est pas forcément gagné comme cela. Nous avons parfois une argumentation brillante, mais sans force, car la force est ailleurs. La force est ailleurs. Lorsque l'on est prêt à écouter, prêt à avoir compassion, même de quelqu'un qui semble très très sûr de lui, simplement être là, sans être le vendeur qui vend son produit, mais simplement être là comme témoin de Jésus, nous tenir là et laisser le Saint-Esprit faire, il se passe quelque chose. Et la personne va dire, mais tiens, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme ceux qui m'accostent là au bord du... etc. Il ne m'envahit pas. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Ça vient du Saint-Esprit. Prêche en toute occasion, favorable ou non, dira l'apôtre Paul. Prends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Comment est-ce qu'on peut détruire un iceberg avec un piolet, avec un marteau-piqueur? Vous arriverez à casser certains bouts, mais vous n'arrivez pas très loin. Mais lorsque vous laissez le soleil venir, l'iceberg va commencer à fondre. La douceur de ses rayons va venir et la glace va fondre. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Ça veut dire que vous aurez plus de résultats avec la douceur qu'avec la dureté, tout simplement. Car la dureté produit son égal. Dureté produit des réactions égales. La violence engendre la violence et crée dans l'autre personne la défensive, l'opposition. Une réponse douce calme la fureur, dit encore le proverbe 15, mais une parole dure excite la colère. Troisième recommandation, je la trouve dans 1 Pierre toujours, chapitre 3, verset 4, où il nous est dit, par rapport à des couples où l'un est converti et pas l'autre, et des recommandations précises sont données à la femme en ces termes, j'aimerais vous le lire, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Et au verset 4, après avoir dit que les parures extérieures ne servent à rien, mais que la parure cachée de cœur, personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Frères et sœurs, chères sœurs, mais aussi chers frères, l'esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Et quand Dieu est touché par le fruit qui vient, parce que ça vient de lui, c'est lui qui le met en vous, parce que vous êtes en accord avec sa volonté, vous voulez cela. À ce moment-là, lui fait le miracle. À ce moment-là, les rayons de sa puissance et son amour vont commencer à fondre quelque chose dans le cœur de l'autre qui vous résiste, qui ne vous écoute pas, qui n'est pas d'accord et qui vous fait pleurer parce qu'il ne veut pas de ce Dieu que vous avez accepté. Le Seigneur va faire son travail. Le Seigneur va faire son travail. Et les doux hériteront la terre. Ce n'est pas ceux qui jouent des coudes qui hériteront la terre. Ce n'est pas ceux qui ont l'argent à mettre sur la table qui hériteront la terre. C'est les débonnaires, c'est les doux qui hériteront la terre. Vous aurez un héritage, un grand héritage. Si vous dites oui ce matin au fruit de l'esprit qui s'appelle la douceur et que dans nos réactions et dans nos actions, nous puissions être réellement marqués par la mentalité de Christ, la mentalité de Moïse, la mentalité d'Étienne, la mentalité que l'apôtre Paul a recommandée aux chrétiens de Colosse, d'Éphèse et à Timothée en particulier. Frères et sœurs, si dans votre cœur ce matin nous trouvons peu de douceur et beaucoup de dureté, nous devons nous remettre en question. Le Seigneur ne vient pas pour nous juger, mais pour nous transformer. Parfois nous sommes durs sans nous en rendre compte, car la vie nous a rendus durs, car nos réactions et nos protections nous ont rendus durs. Et il y a comme un endurcissement petit à petit qui se fait et nous sommes devenus durs et impénétrables. Nous sommes comme derrière une carapace avec une carapace et une protection blindée comme cela pour qu'on ne nous touche plus, mais insensiblement on est devenu dur quand même. Et le Seigneur voudrait dire ce matin, si tu récoltes la dureté, c'est parce que tu es aussi dur. Et la dureté engendre la dureté, mais la douceur engendre la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est un grand prix devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous voulons ce matin regarder au bon exemple et être comme cet arbre souple qui se plie dans la tempête de l'adversité, mais qui se relève après l'orage, et non pas un arbre rigide et dur qui va se casser dans la tempête et qui restera cassé. J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, elle nous éclaire. Seigneur, merci pour tes promesses merveilleuses, car tu dis que les doux hériteront la terre. Seigneur, il y a un héritage extraordinaire qui est réservé au tien, Seigneur. Il est réservé à ceux qui sont de la même nature que Christ. Christ était doux et humble de cœur. Il est venu dans sa douceur vers Jérusalem, alors qu'il aurait pu faire tant de reproches, il aurait pu faire dire tant de choses. Il est venu pour gagner le cœur. Et je te remercie de ce que tu viens vers nous, Seigneur, pour gagner nos cœurs ce matin. Je te remercie pour l'œuvre du Saint-Esprit. Je te remercie de venir vers moi, Seigneur, et de me toucher, de me transformer, afin que mes entrailles, Seigneur, nos entrailles soient, Seigneur, marquées par la douceur, l'humilité et la patience. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons nous revêtir ce matin, nous revêtir de toi, car ce que nous ne possédons pas, toi, tu l'as. Seigneur, aide-nous aussi à ne pas confronter charnellement les autres, mais les redresser, les accompagner avec douceur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie spécialement ce matin pour ceux qui habitent avec un conjoint qui n'est pas converti, ou qui peut-être est rétrograde, qui connaissait le Seigneur, mais qui n'en veut plus maintenant. Seigneur, tu donnes des recommandations très claires aux sœurs. Peut-être qu'il y a aussi des frères qui sont concernés, mais Seigneur, merci pour cette parure de douceur et d'un esprit paisible. Seigneur, qui est d'un grand prix devant Dieu et qui déclenche la puissance de Dieu. Seigneur, cette faveur de Dieu va gagner sans parole par la conduite de ces personnes. L'autre conjoint. Nous te demandons des miracles ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.